L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission quotidienne de Radio Évasion. Une fois par mois, l'association Bretagne Vivante vient nous enchanter avec des animaux ou des plantes. Et aujourd'hui, ce sont les oiseaux marins qui nous intéressent. Ils sont nombreux, ils nous sont familiers et comme leurs congénères de la Terre, eh bien, ils sont menacés. Notre invité va nous expliquer pourquoi. Il va aussi nous raconter ce qui est fait pour protéger ces oiseaux et les associations comme Bretagne Vivante sont heureusement là pour intervenir et comme il y a des associations équivalentes un peu partout en Europe, elles peuvent aussi coordonner leurs actions pour être plus efficaces car les oiseaux, eux, se moquent bien des frontières, surtout s'ils sont marins. Bernard Cadieu est oiseau-marinologue, comme il dit. Et vous l'aurez compris, c'est un ornithologue spécialiste des oiseaux marins. Il travaille pour Bretagne Vivante. Bonjour Bernard Cadieu.
Bonjour.
Alors, quels oiseaux marins ont besoin de protection?
Alors, à l'échelle bretonne, on a 17 espèces d'oiseaux marins nicheurs qui ont des effectifs très, très variables. Ça va de quelques dizaines de couples pour les plus rares jusqu'à plus de 20 000 couples pour les plus abondants. Et plusieurs de ces espèces, à l'échelle régionale, ont un statut de conservation considéré comme défavorable, c'est-à-dire que les effectifs sont en diminution ou bien des colonies ont disparu et par conséquent nécessitent d'avoir une attention particulière pour mettre en œuvre des actions de gestion, des actions de conservation afin de maintenir les effectifs.
Est-ce que c'est plus difficile de protéger un oiseau marin qu'un oiseau terrestre ?
Alors, c'est pas le fait qu'ils soient marins ou terrestres, c'est surtout le fait qu'ils soient migrateurs ou pas migrateurs, puisque nos oiseaux marins, ils ne regardent pas les frontières. Et donc, ils sont présents à terre pendant la période de reproduction. Ils sont étroitement associés à un espace terrestre, qui est souvent un espace insulaire. Et ensuite, une fois que la reproduction est terminée, ben, nos différentes espèces d'oiseaux marins vont partir vagabonder par les mers jusqu'au sud, dans l'hémisphère sud pour certaines des espèces, ou alors se disperser dans l'hémisphère nord pour d'autres, ce qui fait qu'elles sont à ce moment-là soumises à différents facteurs environnementaux qui peuvent être naturels. Ça peut être des fortes tempêtes, mais ça peut être aussi des impacts humains. Et donc, du coup, cette phase-là échappe en quelque sorte aux actions de protection.
Est-ce que certaines espèces ont besoin d'une certaine forme de protection qui sont peut-être, on va dire, plus difficile à protéger que d'autres et ont besoin de...
Alors, les menaces qui pèsent sur les oiseaux marins sont très diverses. On a des menaces directement en lien avec les activités humaines. Ça peut être, par exemple, des rangements humains qui va s'observer sur des colonies de reproduction liées à l'activité de plaisance, à des kayakistes, à d'autres activités, d'autres utilisateurs de l'espace marin. Ça peut être aussi des espaces insulaires où il y a des prédateurs introduits. On pense notamment aux rats qui peuvent être sur ces îlots, voire également une espèce invasive qui est le vison d'Amérique, échappé de fermes d'élevage, et qui peut entraîner des fortes mortalités sur les colonies. Donc c'est pour ça que, en fonction des menaces identifiées, les actions ne sont pas toujours les mêmes à mettre en œuvre.
Alors par exemple, quel oiseau est vraiment dérangé par l'homme ?
Alors, on a notamment les sternes, plusieurs espèces de sternes qui nichent sur des îlots et qui ont l'habitude de s'installer un peu où elles veulent pour certaines d'entre elles. Et justement, c'est des espèces qui peuvent facilement s'envoler à l'arrivée de personnes sur l'îlot. Et souvent, c'est des colonies qui sont assez importantes en termes d'effectifs. Et quand tous les oiseaux s'envolent, ils désertent momentanément les œufs, voire les petits poussins. Et à ce moment-là, ils sont exposés soit aux conditions météorologiques, soit dans certains cas à des prédateurs qui profitent de l'occasion pour venir piller les nids quand les oiseaux se sont momentanément envolés.
Alors, ça ressemble à quoi une sterne ? Il me semble que c'est quelque part entre la mouette et l'hirondelle, c'est ça ?
Alors, la mouette est par définition l'oiseau que tout le monde connaît, même si dans la majorité des cas, la mouette en question est un goéland. Et effectivement, la sterne, notamment la sterne Pierre Garin, on l'appelle aussi hirondelle de mer, parce qu'elle a une queue fourchue, et par sa silhouette, elle rappelle un peu l'hirondelle terrestre que l'on connaît, même si la sterne Pierre Garin est dans les faits bien plus grande qu'une hirondelle.
Ça ressemble à quoi, une sterne ? Alors, c'est quelle couleur ? C'est blanc ?
Alors, la sterne Pierre Garin est plutôt blanche. Le dessus des ailes est un peu plus grisé, avec un bec rouge et des pattes rouges également.
C'est gros comment ?
Alors, c'est gros comment ? C'est gros comme un pigeon maigre, on va dire.
Voilà. Un pigeon maigre, ça fait quoi, 200 grammes à peu près, quelque chose comme ça ?
Alors, je ne vous dirai pas le poids, je ne le connais pas par cœur, désolé.
Et il y a plusieurs sortes, alors on dit sort, espèces de sternes ?
Oui, en Bretagne, on a 4 espèces de sternes qui nichent. On a la plus petite qui est la sterne naine qui souvent niche de manière isolée. Elle aime bien les zones sableuses sur les îlots. Après, on a la sterne de Dougal qui est la plus rare, qui va souvent s'installer en compagnie des sternes Kojek et des sternes Pierre Garin. La plus représentée en termes de répartition géographique, c'est la sterne Pierre Garin, puisqu'elle s'installe à la fois sur des îlots naturels, mais elle est aussi capable de s'installer sur des structures humaines. Ça peut être une barge abandonnée, ça peut être un bateau un peu délaissé, ça peut être des pontons. Elle s'installe un peu partout, dans des marais également. Et après, on a la plus grande, qui est la sterne Kojek, et qui, elle, va former des colonies qui sont particulièrement nombreuses, avec parfois plusieurs milliers de couples.
On va garder la sterne comme exemple tout au long de l'émission, parce que vous avez fait quand même pas mal d'études et puis de vous avez participé à beaucoup de coordination scientifique justement autour de la sterne. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres problématiques pour les oiseaux ? Je pense par exemple à tout ce qui est les parcs éoliens marins, par exemple.
Alors les parcs éoliens, c'est un sujet effectivement d'actualité à l'échelle française, mais les parcs éoliens sont en place à l'échelle européenne depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Et c'est effectivement une problématique. Il y a de nombreuses études qui ont été menées sur ces aspects-là. Il y a des études qui sont également menées en Bretagne, notamment par des équipes de Bretagne Vivante, d'ailleurs. Et toutes ces études cherchent à savoir si, d'une part, la zone d'implantation du parc peut avoir des effets. Les effets possibles, c'est soit une perte d'habitat, c'est-à-dire que la zone où le parc va s'implanter, c'est une zone qui était auparavant utilisée par les oiseaux, soit pour des zones de regroupement, des zones de mue ou des zones d'alimentation, c'est le premier effet. On a également potentiellement un effet barrière, c'est-à-dire que par rapport à leur couloir de migratoire ou leur couloir de vol vers les zones de pêche, si on se retrouve avec plusieurs champs éoliens, en gros, ils doivent faire du slalom entre les différents parcs pour pouvoir rejoindre les zones d'alimentation.
Et donc du coup, ça les fatigue ?
Du coup, s'ils sont obligés de faire des zigzags au lieu d'aller en ligne droite, effectivement, et c'est pour ça que c'est un élément important à prendre en compte, puisqu'on parle souvent d'effets cumulés, c'est-à-dire qu'un parc localement peut avoir un effet considéré comme minime, mais des parcs échelonnés à l'échelle de l'ensemble de la Manche et de la mer du Nord, par exemple, peuvent avoir des conséquences qui sont plus importantes. C'est pour ça qu'il y a énormément d'études qui sont menées là-dessus, des études sur le terrain, mais aussi des modélisations qui prennent en compte à la fois les hauteurs de vol des oiseaux et tous les paramètres qui sont liés aux hauteurs des mâts des éoliennes, aux vitesses de rotation des pales, etc., pour essayer de mieux comprendre quels peuvent être les impacts et identifier les espèces qui, par leurs caractéristiques écologiques, peuvent être potentiellement les plus impactées par les parcs éoliens.
Vous parliez, justement, on parle des zones maritimes qui sont prises par l'homme. Au niveau de la pêche, quel impact peut avoir la pêche sur la disparition des oiseaux ?
Alors la pêche peut avoir des effets positifs, puisque les activités de pêche vont aussi rejeter tout ce qui est espèces proie, enfin poissons non commercialisables ou poissons sous taille, mais également sur les navires usines qui travaillent en mer et qui procèdent au nettoyage et à la préparation du poisson en mer, tout ce qui est viscères et tout ça est rejeté à l'eau. Donc il y a des sources de nourriture pour un certain nombre d'espèces, les goélands, le fou de bassin par exemple. Dans le même temps, les activités de pêche qui se concentrent sur ce qu'on appelle les poissons fourrage, c'est les poissons qui forment des bancs importants et qui sont à la fois de la nourriture de poissons plus gros, comme les thons par exemple, ou les dauphins, et qui sont aussi des sources de nourriture pour les oiseaux. Les activités de pêche peuvent entraîner une raréfaction de ces proies. Et donc des problématiques pour les colonies d'oiseaux marins qui dépendaient de cette ressource. Et enfin, les activités de pêche peuvent aussi avoir un impact par mortalité directe, puisqu'il y a ce qu'on appelle des captures accidentelles des oiseaux dans les engins de pêche. Ça peut être le cas sur des filets, par exemple. Les oiseaux plongeurs vont se retrouver empêtrés dans les filets et se noyer. Ou bien alors, lorsqu'on parle de palangres, c'est des lignes d'hameçon qui sont laissées en mer avec des appâts au bout. Là encore, les oiseaux peuvent être capturés en cherchant à avaler l'appât.
Quel oiseau, par exemple ?
Alors, sur les palangres, il y a d'énormes problèmes, surtout dans l'hémisphère sud, notamment avec les albatros. Et il y a énormément de campagnes internationales qui sont menées à la fois pour évaluer la mortalité de ces espèces, et à la fois pour mettre en œuvre des solutions alternatives de façon à limiter ces captures accidentelles, puisqu'elles ont, pour certaines espèces d'albatros, entraîné des déclins importants sur les effectifs nicheurs.
Alors, c'est quoi les solutions alternatives ?
Alors, les solutions alternatives, c'est souvent, d'ailleurs, c'est souvent des pêcheurs qui les mettent au point, c'est-à-dire que lorsque la ligne de palangre est filée derrière le bateau, il y a tout un moment pendant lequel l'appât, il est proche de la surface et donc accessible pour les oiseaux. Et donc, par conséquent, il y a des méthodes qui sont mises en place pour que les hameçons y coulent directement à l'arrière du bateau, immédiatement. Donc, l'appât n'est plus accessible pour les oiseaux.
Donc, ils sont lestés ?
Ils sont, bah, disons qu'au lieu d'être en diagonale, ils vont tomber à la verticale derrière le bateau.
D'accord.
Et il y a aussi des systèmes qui ont été développés où l'hameçon, il est dans une petite capsule plastique et cette capsule plastique empêche aux oiseaux de se prendre sur l'hameçon. Et quand la pression, quand la ligne va descendre dans l'eau et que la pression sera un peu plus importante, cette capsule s'ouvre, l'hameçon est libéré et il y a une petite lumière LED qui s'allume et qui augmente la probabilité de capture des poissons qui sont ciblés par ces pêcheries.
Ah d'accord. Et alors du coup, quelle espèce est visée par justement par ce problème de pêche ?
Alors sur les pêcheries liées aux palangres, c'est globalement dans l'hémisphère sud les albatros. Il y a plusieurs espèces d'albatros. Et à l'échelle européenne, c'est le fulmar boréal qui est un cousin de ces albatros-là qui est également touché par ce type d'activité. Mais à l'échelle sur le proche côtier en Bretagne, les problématiques identifiées sont surtout liées à des problématiques de capture accidentelle dans les filets.
Alors, il y a les problèmes humains, mais il y a aussi d'autres problèmes, comme la grippe aviaire.
Alors, la grippe aviaire, c'est d'actualité particulièrement marquée en cette saison 2022. Grippe aviaire qui a impacté très fortement des colonies, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle d'autres pays européens. Il y a des colonies qui comptaient quelques milliers de couples en début de saison et qui ont été quasi totalement décimées par la grippe aviaire. Au jour d'aujourd'hui, on se parle, c'est la période internuptiale entre deux saisons de reproduction pour les oiseaux, mais il y a encore des mentions d'oiseaux marins présentant des signes de grippe aviaire qui sont retrouvés échoués dans les îles britanniques, par exemple. Actuellement, c'est plutôt des guillemots et des pingouins qui sont trouvés, en même temps que des oies, des canards, des goélands. Mais c'est toujours, en gros, la grippe aviaire sévit toujours actuellement. Elle a eu un impact important sur les colonies l'année dernière. Et donc la saison de reproduction 2023 est particulièrement attendue par les ornithologues qui travaillent sur les colonies d'oiseaux de mer, puisque là, à cette période de l'année, on ne voit pas les oiseaux, donc on ne peut pas les dénombrer, donc il faudra attendre le retour sur les colonies de reproduction et la saison de reproduction 2023 pour pouvoir évaluer correctement l'impact et mettre en évidence d'éventuels forts déclins des effectifs reproducteurs ou alors une stabilisation. Enfin, tout, c'est un peu la grande question et en même temps la grande inquiétude pour les personnes qui travaillent sur les colonies d'oiseaux marins.
Oui, puis en plus c'est un cercle parce que certains pêcheurs utilisent les oiseaux marins pour pouvoir repérer le poisson.
Oui, ça c'est toujours d'actualité. On pense notamment aux pêcheries, aux thoniers qui utilisent le repérage des vols d'oiseaux qui indiquent que sous ce vol d'oiseau il y a certainement du poisson et s'il y a du petit poisson en surface, ça veut dire qu'il y a du thon en dessous qui chasse ces poissons en question.
Alors, c'est quoi l'intérêt de protéger tous ces oiseaux d'un point de vue Europe ?
Alors, toutes ces espèces, elles sont sur les listes européennes. En fonction des effectifs et de l'évolution des effectifs, elles sont classées sur la liste rouge. Il y a à peu près un tiers des oiseaux marins européens qui sont actuellement avec un statut de conservation défavorable. Tous ces oiseaux font partie de notre biodiversité et de notre bien commun. Dire. Et par conséquent, tous ces éléments-là nécessitent de mettre en œuvre des actions pour ne pas perdre d'espèces, puisque malheureusement, durant les dernières décennies, les activités humaines ont conduit à la disparition de certaines espèces à l'échelle du globe.
Alors, quels sont les dispositifs qui sont mis en œuvre par l'Europe ?
Alors, il y a les dispositifs sont surtout financiers, c'est-à-dire qu'il y a des programmes, notamment on appelle ça des programmes LIFE, des programmes européens qui permettent de mettre en œuvre des actions de gestion. Bretagne Vivante a eu l'occasion de bénéficier de ce type de programme LIFE pour mener des actions sur les oiseaux marins, sur la sterne de Dougal dont on parlait tout à l'heure, par exemple.
Ouais.
Et justement, pour pouvoir mettre en œuvre des actions sur les colonies, que ce soit des mises en œuvre d'actions de d'éradication des rats, par exemple, ou des actions de sensibilisation des utilisateurs de l'espace marin, qu'ils soient plaisanciers, pêcheurs, etc., de façon à expliquer pourquoi Les colonies en question nécessitent d'être préservées. Et pourquoi il faut éviter de déranger les colonies et d'entraîner des envols répétés des oiseaux. Donc ça, c'est des actions qui peuvent être mises en œuvre. Et tout ça contribue aussi à pouvoir continuer les suivis qui sont faits sur les colonies, de façon à pouvoir évaluer les actions de gestion qui sont mises en œuvre et voir si les résultats attendus sont positifs ou si, malgré tous les efforts qui sont fournis, on n'arrive pas à redresser la barre ou à changer le cap.
Alors, entre 2005 et 2010, vous avez coordonné le programme Life Nature, justement sur la sterne de Dougal, parce qu'elle était, si je ne me trompe pas, donc, aux alentours de l'île de Glénan, parce qu'elle venait de la Guinée ou du Ghana.
Alors, à cette période de l'année, en hivernage, elle est dans le golfe de Guinée.
Dans le golfe de Guinée, oui, c'est ça.
Et après, quand elle revient sur les sites de reproduction, il y a des colonies qui sont situées au niveau des Açores, et après, les autres colonies européennes sont en Bretagne, mais aussi en Irlande et en Angleterre. Et c'est une espèce qui a bénéficié d'actions de conservation à l'échelle européenne à plusieurs reprises, parce que justement les effectifs sont limités. Aujourd'hui, l'état des populations, notamment en Irlande, est bien plus favorable qu'il n'était par le passé. Mais par contre, à l'échelle bretonne, malgré toutes les actions qui ont été menées, l'espèce a subi à la fois l'impact de prédateurs sur les colonies où elle était précédemment installée, notamment en baie de Morlaix, c'était le vison d'Amérique dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça a entraîné une dispersion de la colonie, avec aujourd'hui une partie des couples qui sont installés dans l'archipel des Glénans, justement sur l'île aux Moutons, où Bretagne Vivante mène des actions de surveillance et les comptages annuels, et puis sur une autre île qui, elle, est située dans les Côtes d'Armor, qui est aussi une réserve de Bretagne Vivante. C'est l'île de la Colombière, où là encore, chaque année, on a du personnel salarié et puis des services civiques qui s'occupent d'assurer à la fois le suivi de la colonie et toutes les actions de surveillance et de sensibilisation pour préserver la quiétude de ces espaces.
Alors, une fois que c'est récolté, toutes ces informations-là, comment ça se passe au niveau européen ?
Alors, toutes ces informations-là, par exemple, pour les sternes Dougal, il y a un réseau de toutes les structures, qu'elles soient associatives ou qu'elles soient associées à des unités de recherche scientifiques ou autres, qui vont mettre en commun l'ensemble des données collectées de façon à pouvoir avoir régulièrement un état des lieux des populations à l'échelle des différents secteurs de reproduction pour voir quelle est la situation. Après, de manière générale, pour les oiseaux marins, il y a aussi, dans le cadre de la convention OSPAR, convention Oslo-Paris, il y a régulièrement des rapports qui sont édités concernant le bon état écologique de l'environnement marin. C'est aussi le cas dans le cadre de la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Et donc, toutes les données qui sont collectées à l'échelle régionale, nationale, par différentes structures, il y a beaucoup d'associations en France qui œuvrent dans le suivi des colonies d'oiseaux marins. Toutes ces données peuvent être compilées, remontées à l'Europe, à l'OSPAR, qui permet justement d'alimenter tous ces bilans pour mettre en évidence des tendances à l'échelle des différentes régions marines de l'Europe, pour voir quelle est la situation et si la situation reste globalement favorable ou défavorable pour les oiseaux marins.
Alors, les données, c'est le recensement, mais il y a quoi d'autre, par exemple
Alors, la première donnée que l'on collecte, c'est effectivement le recensement des colonies pour avoir le nombre de couples nicheurs. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, si on peut, on peut avoir aussi des suivis qui vont nous permettre de collecter des données sur ce qu'on appelle la production en jeunes, c'est-à-dire le nombre moyen de jeunes élevés par chaque couple nicheur, qui va donner une indication sur la réussite de la reproduction. Et sur le moyen long terme, ça permet de mettre en évidence si le succès de la reproduction est plutôt réduit et essayer d'identifier les causes qui peuvent être soit des problèmes alimentaires autour de la colonie qui ne permettent pas aux adultes de nourrir suffisamment les poussins, soit liés à des problèmes de prédation qui interviennent durant la saison de reproduction.
Et comment ça se passe au niveau européen ? Est-ce que tous les pays font tous la même chose ou il y a des spécificités ?
Alors, il y a des pays qui, historiquement, ont une activité oiseaux marins importante. C'est le cas des Britanniques, notamment. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de colonies d'oiseaux marins chez eux avec des effectifs importants. Donc, ils ont, depuis plusieurs décennies, mis en place des suivis importants sur ces colonies. Et ils collectent énormément d'informations. Et après, en fonction des pays, soit c'est des structures de recherche qui font le travail, soit c'est des structures associatives. Et donc, selon les pays, s'il n'y a pas des moyens financiers qui sont mis à disposition d'une structure pour assurer la collecte, la compilation et le formatage des données collectées à l'échelle nationale pour les transmettre ensuite à l'échelle européenne, bah évidemment c'est difficilement envisageable.
Ouais. Et qu'est-ce que vous faites, vous, alors, à Bretagne Vivante ? Alors, vous avez un observatoire, c'est ça, l'île aux moutons ?
Alors, à l'échelle de la Bretagne, Bretagne Vivante coordonne un observatoire régional de la vie faune. Dans cet observatoire régional de la vie faune, il y a un volet oiseaux marins. Et dans ce volet oiseaux marins, il y a différentes actions qui sont mises en place, de suivi à la fois un suivi des colonies pour obtenir des données, comme je l'ai dit, sur le nombre de couples nicheurs, sur la production en jeunes. On a également sur la sterne de Dougal, comme sur d'autres espèces, des programmes de bagage où on va venir capturer les poussins ou les adultes pour poser des bacs, pour obtenir des informations sur la démographie de l'espèce. Et après, en fonction des colonies des espèces, on a les actions de surveillance et de sensibilisation pour réduire au maximum les risques de dérangement par les activités humaines.
Comme quoi ?
Ben, je vous disais tout à l'heure, les activités de plaisance, notamment les gens qui débarquent sur l'île sans nécessairement avoir connaissance du risque qu'ils font courir aux espèces qui sont sur l'île, et que si on les laisse trop s'approcher des colonies de reproduction, ben, ils peuvent entraîner des envols, voire contribuer, souvent involontairement, à l'échec de la reproduction des espèces.
Alors, est-ce que tout ça, c'est vraiment efficace ?
Alors, tout ça est efficace puisque on arrive à maintenir des espèces. Après, même sur ce qu'on essaye aussi de regarder, notamment pour les sternes qui adorent par leur mode de vie changer de site et ne pas aller là où on souhaiterait qu'elles aillent, c'est de garder sous le coude un réseau de sites potentiellement favorable, ou si les conditions locales se détériorent sur un secteur du littoral breton, ben elles peuvent trouver un nouveau lieu favorable à leurs yeux pour se reproduire ailleurs en Bretagne.
Voilà. Mais du coup, c'est compliqué pour les suivre.
Du coup, c'est compliqué. Mais on a un réseau d'observateurs qui fait que on arrive à repérer les nouvelles implantations et identifier des colonies d'importance qui auraient pu passer inaperçues. Les sternes sont, à l'échelle régionale, les sternes font l'objet d'une attention vraiment particulière, et il y en a peu qui échappent au comptage annuel ou au repérage par les ornithologues divers et variés.
On peut tracer avec un GPS un oiseau en lui mettant quelque chose ?
Alors, les GPS sont de plus en plus miniaturisés, ouais. Et aujourd'hui on arrive à utiliser des GPS qui pèsent seulement 1 gramme et qu'on peut poser sur des petits oiseaux qui font 28 grammes.
Ils sont posés où ? Sur les pattes ?
Alors, on le pose notamment sur les Océanides de tempête, qui sont un tout petit oiseau, le plus petit des oiseaux de mer d'Europe, qui nichent, les grosses colonies françaises et bretonnes sont dans l'archipel de Molène. Et ce petit GPS, il va être posé avec de l'adhésif sur la queue de l'oiseau pendant quelques jours, juste pendant la période où il va quitter son œuf pendant que son partenaire a pris le relais et où il va aller se nourrir en mer.
D'accord.
Et grâce à ça, on a pu identifier que les océanides de l'archipel de Molène, ils vont aller se nourrir en bordure du plateau continental, sur une zone où il y a des canyons sous-marins et qui est une zone très riche au niveau alimentaire. Et ils vont s'alimenter là-bas, donc à 180-200 km de la colonie, puis revenir un ou deux jours après, prendre leur relais d'incubation sur l'œuf, et ce jusqu'à l'éclosion du poussin.
D'accord. Merci beaucoup Bernard Cadieu.
Mais je vous remercie de m'avoir invité.
Et vous pourrez bien sûr réécouter cette émission et les autres émissions réalisées avec Bretagne Vivante sur le site internet de Radio Évasion. Le prochain LEM avec Bretagne Vivante, c'est toujours sur les oiseaux, mais cette fois sur ceux qui occupent nos jardins.